jamais entendu, animé par Olivier Mathiot et Thomas Benzazon.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Pierre-Étienne Roana, président de Ricommerce, l'a choisi comme 6 stars. J'ai nommé Caméra Vézic, directrice générale de Picpic Environnement. Bonjour Caméra.
Bonjour Solène.
Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue dans les 6 stades du Next 40.
Merci pour cette invitation, merci à Pierre-Étienne.
Alors je te propose, pour commencer, de nous raconter en quelques mots ce qu'est Picpic Environnement après ce petit jingle. Pitch, oh mon pitch.
Pitch, oh mon pitch. Alors Picpic Environnement, c'est une association d'intérêt général qui fête très bientôt ses 12 ans, le 8 mars, journée de la femme, comme par hasard, notre date anniversaire.
C'était voulu ?
Ah oui, on a attendu des mois pour pouvoir déposer les statuts le 8 mars, pour que ce soit vraiment à cette date-là. Donc c'est une association qui a pour projet social d'accompagner tout le monde à la transition écologique et solidaire. Ce qu'on veut, c'est vraiment changer la société avec des petits pas, que tous les citoyens aillent vers l'éco-citoyenneté. Donc on les prend, quels qu'ils soient, et on les emmène vers des changements de comportement.
Et alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire de former des éco-citoyens ?
Alors, on parle beaucoup de citoyenneté, se sentir citoyen, puis là, c'est très sujet du jour en plus. Mais l'éco-citoyenneté, c'est comment, dans ta vie de tous les jours, tu es engagé pour la planète, pour la cité, même sans t'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de consomme-acteur. Comment dans ta consommation tu peux être acteur, mais nous on va bien au-delà de la consommation. On se base sur les 3 pôles, oui. Thématiques du développement durable. Bien sûr le pôle économique, ta consommation, pour lequel on prône la sobriété, comment être plus sobre. Bien sûr le pôle environnemental, tout le monde en parle, comment protéger l'environnement. Mais on n'oublie pas le pôle social, et c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur chez Picpic, c'est l'inclusion.
Et tu mesures l'impact ?
Alors on commence à se mettre dans la mesure d'impact parce que c'est vrai que dans le monde associatif, il y a des choses qui sont plus ou moins mesurées et comme là, nous, on tape large sur les 3 sujets, on met en place la mesure d'impact. Pour l'instant, c'est la mesure d'impact plus classique sur le nombre de personnes suivies, mais là vraiment, on va voir sur pour aller affiner plus sur justement à quel point tu as pu changer tes comportements.
Est-ce que tu peux nous donner 2-3 actions que vous avez mises en place ou des campagnes que vous avez pu mettre en avant pour justement engager ces éco-citoyens ?
Par exemple, pour chacun de ces pôles, on a des programmes bien définis. Sur le pôle environnemental, on a un programme qui s'appelle Plus de verre en ville. On a constaté qu'il y a un vrai souci sur une perte de biodiversité en ville. Donc c'est un programme de renaturation de la ville. Et puis ça tombe bien parce que c'est bon pour le climat, c'est bon pour la santé, c'est bon pour plein de choses.
Pour le moral aussi.
Pour le moral, avoir des plantes partout. Sur le pôle économique, on a un projet boucle économie circulaire. L'objectif, c'est de favoriser l'économie circulaire, surtout dans les quartiers. Donc là, ça permet de faire monter des gens en compétence sur des métiers de la réparation, du réemploi. Donc on travaille justement avec le réseau Aircube et Recommerce là-dessus. Et on a un programme qui nous tient vraiment à cœur qui s'appelle Plus belle ma ville, pas du tout inspiré d'une série télé. Plus belle ma ville où justement on veut développer l'engagement citoyen, surtout dans les quartiers. Et les quartiers sont très souvent dénigrés, montrés sous un jour négatif, alors que c'est des endroits vraiment merveilleux avec des pépites dedans. Et l'idée c'est de montrer tout ce qui se passe bien, tout ce qui se passe de formidable dans les quartiers. Donc on a des projets comme Mes voisins sont formidables, mon quartier a du talent. Donc là, c'est des petites capsules vidéo, etc. Mais c'est surtout vraiment développer l'engagement des gens autour d'eux.
Alors j'imagine que pour mener à bien ces projets, tu as besoin de tout un écosystème qui te soutient. Qui sont tes interlocuteurs pour mener à bien ces projets ?
Alors déjà, pour mener à bien ces projets, j'ai une super équipe salariée.
Ouais.
On a 15 salariés dans l'association et on a créé il n'y a pas longtemps une entreprise pour pouvoir aussi intervenir en entreprise, chez L'Oréal, chez BNP, etc. Donc là, il y a aussi 20 salariés. Donc ça fait une belle équipe de 35 salariés. On a une belle team de bénévoles qui ne demande qu'à grandir. Là, on développe, pour avoir encore plus d'impact, encore plus, être encore plus d'utilité sociale, on développe plusieurs relais.
Ouais.
Donc on cherche des ambassadeurs, des bénévoles comme toi, Solène, qui pourraient être ambassadeurs de nos messages pour pouvoir essaimer encore plus. Et comme on nous sollicite maintenant partout en province et qu'on ne peut pas y aller, on aimerait créer des relais locaux, donc soit des associations qui existent et qui aimeraient faire un peu en plus de ce qu'elles font déjà, un peu ce qu'on fait, soit des gens qui sont en reconversion ou qu'est-ce et qui aimeraient prendre le projet Pic-Pic et le développer de leur côté. Et en tout cas, tu as raison, on s'appuie sur un réseau énorme d'acteurs existants, de collectivités, d'entreprises, et on est dans plusieurs réseaux, réseau de l'économie circulaire, réseau de la protection de l'environnement, comme France Nature Environnement, des réseaux de l'action sociale. Donc voilà, on bosse ensemble, ensemble, c'est vraiment le mot de Pic-Pic, c'est ensemble. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Pic-Pic, on est les petites abeilles, Pic-Pic, on adore la symbolique de l'abeille, et c'est vraiment dire que tout seul une abeille, c'est pas grand-chose, c'est très fragile, ça meurt très vite. Mais ensemble, c'est vraiment l'intelligence collective et on peut vraiment aller très loin.
Alors, tu as devancé ma question, justement, de pourquoi Pic-Pic. Et la genèse de ce projet, finalement, qu'est-ce qui a été le déclic pour toi de te lancer dans cette aventure ?
Bah, y a eu la rencontre de deux choses. Moi, j'ai longtemps travaillé dans le... J'étais responsable commercial export dans une vie précédente. J'ai fait ça pendant 15 ans, où là, mon empreinte environnementale, elle était... Ouh. J'ai beaucoup voyagé en avion, j'ai beaucoup vendu. Dans le second œuvre au bâtiment, j'ai beaucoup vendu du PVC. Et c'était un peu le début des années 95, de tous ces questionnements sur l'environnement. Et mes différentes entreprises étaient beaucoup sollicitées. Pourquoi le PVC ? Est-ce que c'est pas bien ? Est-ce que vous avez des alternatives et tout ? Et c'est là que moi, mon cheminement a commencé. Est-ce qu'il y a vraiment un problème avec les produits que l'on vend ? Est-ce qu'on peut proposer mieux ? Après, la réalité nous a rattrapés à chaque fois dans les entreprises. C'est toujours les deux mêmes questions. Est-ce que tous ces... évolutions environnementales, sont-elles obligatoires ? Non. Est-ce qu'elles ont un coût ? Oui. Ok, donc sujet suivant. Voilà, et c'est là que d'entreprise en entreprise, j'ai vu que je ne pourrais pas faire évoluer un peu la cause, sauf au niveau des syndicats. Et j'étais très investie dans les syndicats un peu communs. Je sais que mes différentes entreprises me voyaient un peu d'un mauvais œil que je passais plus de temps dans les syndicats qui défendaient le secteur plutôt que dans l'entreprise elle-même. Mais en tout cas, j'ai bien aimé cette idée toujours d'être ensemble et faire ensemble pour faire avancer les causes. Et à côté de ça, parallèlement à ça, dans ma vie personnelle, j'ai eu un enfant, deux enfants, trois enfants. Donc je passais avec mes arrêts, congés maternité, etc. Je passais beaucoup de temps avec des mamans. Donc on allait au jardin, etc. Et les problématiques que je me posais de manière professionnelle, on me les posait aussi de manière personnelle. Donc avec toutes ces mamans qui étaient là, on se posait des questions. Mais qu'est-ce qu'on donne à manger à nos enfants ? Est-ce que c'est vraiment bien ? Et toi, qu'est-ce que tu fais pour les couches ? Et toi, est-ce que tu as des tuyaux pour les vêtements ou pour les jouets ? Donc voilà, c'est la rencontre un peu de ces deux préoccupations qui ont fait que voilà, je me suis dit, ben, tiens, je vais quitter tout ça et je vais créer vraiment quelque chose, soit à destination des familles, soit à destination des entreprises pour les aider à s'améliorer, parce que les grandes boîtes, elles ont le budget, elles ont des gens dédiés, elles arrivent à s'améliorer. La problématique, c'est vraiment les PME. Et ça, je n'ai pas réussi à aller au bout de mon projet. Par contre, l'association vraiment de bénévoles que j'ai créée avec les mamans, donc d'ici les Molineaux, ma ville, où on a voulu donner des conseils aux parents qui s'inquiétaient comme ça de leur vie au quotidien, bah ça, ce projet bénévole qui est né en 2008, pour lequel on a attendu le 8 mars 2009 pour déposer les statuts, pour que ce soit bien notre date anniversaire, ce projet un peu bénévole a pris de l'ampleur. Et voilà, nous voilà maintenant.
C'est génial. En tout cas, c'est assez marrant parce que souvent, il y a une prise de conscience au moment d'une maternité. On remarque ça avec plusieurs de nos sistas sur ces sujets-là. Et plus on vieillit, plus en fait, c'est compliqué de changer. Comment on transforme des citoyens lambda en éco-citoyens ? Et comment on fait pour embarquer la jeune génération dans cette dynamique ?
Alors, il y a peut-être... deux, trois idées fortes. Déjà, on ne prend pas la tête des gens. Ça, c'est la première chose.
C'est un bon
Il
ne
faut
point.
Surtout pas être moralisateur. Et j'avoue que ça me peine un peu. Des fois, quand je vois des très, très beaux projets sur le fond, mais dans la forme, avec des messages assez moralisateurs. Ça c'est mal, ça c'est pas bien, à bas la viande, à bas la voiture, à bas les avions. Du coup, moi ce que je vois, c'est qu'au niveau du grand public, du citoyen lambda, ça a plutôt tendance à les braquer. Donc nous, chez Big Peak, on a choisi une autre entrée. Après, tout se vaut, hein, tous les projets se valent, c'est juste
une approche
approche qui est différente. Nous, on a constaté que pour une certaine frange de la population, qui justement n'est pas déjà intéressée, déjà acquise, et c'est celle qui m'intéresse moi le plus, cette frange-là la plus éloignée, que ce soit des personnes plutôt aisées ou des personnes, au contraire, dans les quartiers plus difficiles, chacun a ses freins. Et donc, cette approche positive, elle est vraiment nécessaire. La deuxième chose, c'est le plaisir. Très souvent, tous ces sujets autour de l'éco-citoyenneté, alors on ne prononce pas trop le mot d'éco-citoyenneté, nous, sur le terrain. Hein, voilà.
C'est vous un dites peu, quoi, d'ailleurs
Bah, tu vas tout te dire, celle-là. Mais sur le terrain, il faut vraiment qu'il y ait du plaisir, que les gens passent un bon moment. Ça veut dire que si c'est... il faut que ce soit accessible, déjà. Si c'est des mots trop compliqués, des expériences un peu difficiles à appréhender, les gens, ils vont pas se sentir concernés. Il faut vraiment qu'ils se disent, là, je vais faire cet atelier, cette intervention, cette conférence, cette animation... je l'ai déjà fait plusieurs fois, j'ai passé un bon moment, j'ai rencontré des gens sympas, je me suis amusée et en plus j'ai appris des trucs pratico-pratiques et on ne m'a pas pris la tête, on ne m'a pas dit ça et ça c'est mal, on m'a écoutée, j'ai pu parler, partager mes doutes et on m'a répondu. Voilà, ça je pense que ce côté l'accompagnement, il n'est pas seulement descendant, c'est pas seulement je vous présente les enjeux, il y a un problème sur la viande, sur la voiture, etc. etc. Je vous présente des solutions. Ça, bien sûr, c'est primordial. Mais après, il y a cette troisième étape qui est, après les enjeux, découvrir les enjeux, après faire des solutions, c'est comment est-ce qu'on passe à l'action. Et là, ça passe obligatoirement par un échange. Donc la force de PicPic, c'est vraiment ces animateurs qui sont là, qui écoutent. On est dans la communication non violente, on est dans la pédagogie active. Mmh. Voilà, on en parle beaucoup pour l'éducation nationale, mais la pédagogie active, c'est essentiel quand on parle au grand public. Par exemple, quand on explique... comment trier ses déchets ou comment réduire ses déchets. Alors, comment trier ses déchets? On amène des vrais déchets, on les met dans des boîtes et on explique où ça se met. Et après, on demande aux gens de le faire. Et c'est là que quand ils le font, eux qui pensaient avoir bien compris, ben finalement, il y a des petites erreurs. Et c'est là où c'est génial et c'est primordial qu'ils se trompent parce qu'après, ils se posent des questions, on débat et ils ne le referont plus. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment génial.
Est-ce que le confinement de mars 2020 et la situation dans laquelle on est toujours a, selon toi, fait évoluer les choses? Est-ce que vous avez plus de demandes de la part de villes ou de citoyens aussi sur ces sujets-là?
Alors, le confinement, très dur pour nous. On ne dit pas la Covid, on dit le Covid, nous. le confinement, alors, ça a eu un côté positif, c'était que... Bien sûr, sur ces sujets-là, on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas un sujet de personnes illuminées, enfermées dans des ZAD. Quoi. On se rend compte qu'on est tous exposés et que ce sujet environnemental qu'on croyait un peu secondaire, quand on dit développement durable, les gens ils pensent tout de suite développement économique. Développement durable, ça peut aussi être justement la sobriété, etc. Donc on s'est rendu compte que ça concernait tout le monde et on s'est rendu compte que c'était un sujet primordial, prioritaire. Ça, c'est chouette. Ce qui est beaucoup moins chouette, c'est la souffrance que ça a créée. Au niveau environnemental, il y a eu, et c'est normal, parce que pour des raisons d'hygiène, on a développé beaucoup du jetable.
Oui.
Et c'est complètement compréhensible vu le contexte sanitaire. Après, on le voit dans les déchets, à quel point le tout jetable a augmenté, à quel point l'usage unique donc, a augmenté, à quel point les transports ont augmenté. Les gens ont plus pris la voiture que les transports en commun. Il y a beaucoup de livraisons. L'e-commerce est développé, etc. Donc, beaucoup de livraisons. Donc, ça, voilà. Ça, c'est le côté plutôt négatif. Bien sûr, la souffrance des gens, la souffrance financière, des gens qui n'ont plus de travail, des fois qui n'ont plus rien à manger, la souffrance sociale, sociétale. Enfin, c'est vraiment terrible. Pour nous, en termes d'activité pour l'association, ben, quand on fait des animations, c'est un peu compliqué quand tout est annulé. Donc, on a essayé de développer des animations en visio. Donc, voilà, merci le numérique. Ça nous permet quand même de garder le lien, de garder le contact. On a réussi même dans les quartiers où les gens étaient les moins équipés, avec un téléphone, un WhatsApp, à faire des ateliers avec les familles. Donc c'était un peu compliqué. Le plus difficile, c'est avec les enfants. Voilà, c'est pour ça que, heureusement, les activités scolaires ont été maintenues. On continue à aller sensibiliser les enfants dans les écoles, sachant que nous, notre cible prioritaire, c'est quand même le grand public, les familles. Donc les enfants sont une partie de ce public, mais je pense qu'on leur met beaucoup trop de pression. Déjà, heureusement, ils sont maintenant bien éduqués, bien parés pour l'avenir comme citoyens de demain. Mais il ne faut pas compter sur eux tout de suite maintenant pour changer
l'habitude de leurs parents. Donc tu notais tout à l'heure que Picpic était une association. Est-ce que pour toi, c'est la même approche de monter une boîte ou et une asso?
Après, je pense qu'on peut en débattre pendant longtemps. Il n'en demeure pas moins que... C'est-à-dire, on peut être une entreprise, avoir un objet social fort, mm-hmm. et avoir des velléités de sauver le monde, de changer la cité, etc. En attendant, quand on est une entreprise, qu'on travaille quand même avec beaucoup d'entreprises, on ne va pas développer des projets s'il n'y a pas d'argent derrière, s'il n'y a pas un modèle économique. Même si ce modèle économique est vertueux, il sert un projet social, etc., encore une fois. Alors que dans une association d'intérêt général, on va faire des choses même s'il n'y a pas de financement derrière, tant que ça sert le projet social. Donc nous, la première question qu'on va se poser, c'est pas est-ce qu'il y a du budget, c'est quel est le public qui est visé, quel est l'objectif, etc. Et ça, c'est vraiment primordial.
Parce que c'est vrai qu'on se rend compte que souvent les sujets à impact sont portés plus par des associations.
Oui.
Je pense à Ticket for Change, Make Sense ou d'autres. Et donc c'est vrai qu'on se dit, mais une entreprise ne peut pas porter ce sujet.
Bah elle pourrait, mais une entreprise, elle a besoin de... Encore une fois, le côté monétaire est extrêmement important. Et on lui dit, pouvez-vous participer gratuitement à 5 conférences? Pouvez-vous faire des interventions dans les quartiers, dans les écoles? S'il n'y a pas d'argent, je ne suis pas sûre qu'elle se déplace. Enfin, je ne connais pas encore toutes les entreprises et ça se trouve, on me prouvera par A plus B qu'elles le font. Mais en tout cas, le monde associatif répond, en tout cas l'association Picpic répond en général à un mouvement qui s'appelle l'éducation populaire. Donc comment mettre les gens en situation d'empowerment, d'incapacitation, comment les mettre en capacité d'agir, d'agir pour la cité, d'agir pour la planète, d'agir pour sa famille, etc. Et voilà, ça c'est une motivation primordiale, cette idée d'éducation populaire, d'emmener les gens, d'apprendre aux gens, de les emmener vers plus de citoyenneté. Et encore une fois, je ne veux pas mettre en concurrence associations et entreprises. On se retrouve tous comme acteurs de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Une entreprise peut très bien demander l'agrément ESUS et prouver que dans ses activités, elle va quand même favoriser le bien commun. Voilà, c'est pas le sujet. Mais une association, on se retrouvera quand même avec un modèle justement de bénévole pour beaucoup. La majorité des associations ne fonctionnent avec aucun salarié, mais juste avec des bénévoles. Nous, Picpic, on est dans un modèle un peu mixte, avec une équipe de salariés et un développement justement des bénévoles et bientôt des ambassadeurs Picpic. Mais voilà, ça reste quand même dans un esprit différent.
Alors, Caméra, tu sais que dans chacun de nos épisodes, celui qui t'a choisi comme Sista a toujours une question à te poser. Et justement, tu parles de cet écosystème, de ces entreprises de l'ESS. Je te laisse écouter sa question.
Comment on peut être en fait plus fort à plusieurs, puisqu'aujourd'hui, on est énormément de petites initiatives et qui voulons peser et impacter en fait de manière significative le monde. Et comment en fait elles pensent que effectivement en se fédérant, on peut continuer ensemble en fait à progresser à la fois en tant que dirigeant, mais aussi en tant qu'entreprise.
Merci pour cette question. Alors moi, je vois comme ça à chaud, j'aurais deux pistes de réponse. Effectivement, les réseaux. Pour moi, les réseaux, c'est vraiment essentiel. Je l'ai dit tout à l'heure. Justement, en tant que petite abeille, on sait bien que c'est ensemble qu'on est plus fort avec l'intelligence collective. Je le vois là sur le projet d'économie circulaire où on veut développer justement toutes les initiatives du réemploi et de la réparation. Ben, on se met avec le réseau AirCube où on retrouve quand même beaucoup d'entreprises.
Est-ce que juste pour nos auditeurs, tu peux nous expliquer ce qu'est le réseau AirCube ?
Alors, c'est un réseau, pour l'instant, d'une centaine d'acteurs autour du réemploi de la réparation. Donc, on trouvera aussi bien des gens qui vont travailler sur des smartphones, des objets nomades, que sur des terres de chantier. C'est vraiment très, très large. Comment réemployer Donc, ça, on y tient. Et la deuxième partie de la réponse, au-delà des réseaux, et c'est quand même comme ça qu'on est plus fort dans les réseaux. On le voit avec la crise, les réseaux se sont regroupés, etc. Et pour moi, un deuxième sujet, c'est la communication. Comme l'a dit Pierre-Étienne, on fait tous des choses super, chacun de notre côté. Et des fois, on a du mal à les relier. Et là, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des ODD, les Objectifs du Développement Durable. Donc, c'est la première fois que tous les pays du monde se sont mis d'accord autour de la table pour des objectifs communs. Donc, il y a 17 objectifs communs pour un monde meilleur. Ça va de une ville plus durable à l'égalité homme-femme, à éradiquer la pauvreté, etc. Donc ça, c'est assez extraordinaire que tout le monde soit mis d'accord. C'est une première. Et il y a un programme de 15 ans, de 2015 à 2030. Il y a déjà 5 ans qui sont passés. Il reste 10 ans encore pour changer le monde. Et ce qui est extraordinaire avec ces ODD, c'est qu'on se rend compte que finalement, on partage des choses en commun. Et ça ne se voyait peut-être pas avant. Là, par exemple, il y en a qui parlent de zéro déchet, il y en a qui parlent de plein de choses. On va peut-être se regarder un peu de travers. Et si on arrive à tous mettre des ODD derrière nos actions, donc là, par exemple, ce serait l'ODD 12, consommation responsable, consommation et production responsable. Et si on faisait des réunions ou des projets autour de l'ODD 12, on verrait qu'autour de la table, on trouve plein d'acteurs auxquels on n'aurait pas pensé. Et finalement, on se rend compte qu'on travaille bien dans la même optique.
Voire faire des choses ensemble.
Et on pourra faire des choses ensemble. Et cette idée de mettre en commun, d'avoir un vocabulaire en commun, ça semble un peu bête et un peu une évidence, mais c'est assez révolutionnaire en fait sur le terrain.
Merci pour cette réponse. Caméras, quels sont les enjeux de Pic-Pic aujourd'hui?
Alors, les enjeux de Pic-Pic, ça va être le changement d'échelle. Encore une fois, on était une petite association de mamans bénévoles. On s'est professionnalisé. Maintenant, on est 15 salariés dans l'association et 20 salariés dans l'entreprise. On se rend compte que c'est beaucoup et c'est rien du tout. C'est beaucoup à gérer au quotidien, bien sûr, mais c'est rien du tout pour vraiment avoir de l'impact en Île-de-France, en France, voire plus.
Plus loin.
Voire plus loin. Donc, c'est comment gérer ce changement d'échelle. Et c'est vrai que des fois, moi, j'ai connu beaucoup de structures qui avaient des bons résultats, qui avaient du succès et qui éclataient un peu en vol parce que grandir, c'est quand même beaucoup de frais. On part dans plein de directions, on a envie de faire plein de choses, on est beaucoup sollicité et des fois, on se perd un peu en cours de route. Donc ça, c'est un peu notre challenge, le changement d'échelle, sans pour autant perdre de vue notre objectif, notre projet social et l'idée d'emmener un maximum de citoyens. Et encore une fois, ceux qui nous intéressent le plus, c'est ceux qui sont le plus fragiles, parce que ce sont aussi ceux qui sont le plus exposés. Donc comment être vraiment efficace, garder notre utilité sociale, notre impact, tout en changeant d'échelle. Donc j'en ai un peu parlé, on va développer les relais locaux, les ambassadeurs. Et en termes aussi, en termes de modèle économique, il faut qu'on trouve, comme les entreprises, il faut qu'on trouve un modèle économique qui nous permette d'aller plus loin encore.
Dans tes prises de parole, tu soulignes souvent le rôle particulier et décisif des femmes dans le développement durable. Est-ce que tu peux nous en dire un mot?
Alors, le rôle des femmes dans le développement durable, il est assez évident quand on parle d'autres continents, en Afrique, en Asie, très souvent. C'est comme une évidence. On voit Mohamed Younous avec le microcrédit. Voilà, il s'est vraiment appuyé sur les femmes. Moi, dans mon ancien métier à l'export, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, au Maghreb, et on voit bien que très souvent, ce sont elles qui portent les projets qui vont vraiment très loin. Au quotidien, en Occident, dans nos villes ici, on voit que ce sujet de la, en tout cas le sujet de la consommation, malheureusement, hashtag charge mentale, le sujet de la consommation est souvent porté par les femmes. Dans les faits, les personnes qui viennent nous voir, nous, dans nos interventions, ce sont souvent des femmes, des jeunes femmes, des femmes seniors, des mères de famille, etc., qui se posent des questions. sur leur achat, leur impact, et en dehors de ce sujet de consommation.
Et ça, tu l'expliques justement parce que c'est elle qui s'occupe de, principalement de tous ces sujets.
Alors, je ne suis pas sociologue, je m'y intéresse de plus en plus. Ouais. Je m'intéresse de plus en plus à ces sujets. Mes réponses ne seront pas aussi étayées et aussi précises. Je constate que les femmes sont très engagées. Je constate que très souvent, ça passe pour les femmes. Pour autant, est-ce qu'on a envie que ça reste? Parce qu'on a envie que tous ces sujets-là, ces sujets de changement, restent cantonnés voilà, aux femmes et que tout ça repose sur leurs épaules. Il faut que tout le monde s'y mette. Voilà, donc le sujet est touchy, le sujet est compliqué. Moi, il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur, c'est le sujet de l'écoféminisme qu'on retrouve, ou l'écoféminisme, moi je m'y retrouve énormément, parce que c'est ou ce qu'on appelle aussi l'intersectionnalité. C'est la rencontre de plusieurs combats, la protection de l'environnement, la défense des droits des femmes et la défense des droits des minorités. Et moi, en tant que femme d'origine algérienne kabyle, très engagée pour l'environnement, je me sens, voilà, je me retrouve complètement dans ce sujet de l'écoféminisme et je vois bien que c'est un peu un tout, c'est-à-dire qu'on ne va pas solutionner les problèmes environnementaux tout seul, les problèmes des femmes tout seul, les problèmes des minorités tout seul. Pour moi, c'est une réflexion générale et on s'en rend de plus en plus compte. L'idée, encore une fois, comme nous, notre mot, c'est quand même l'inclusion et c'est le ensemble. Le but, ce n'est pas de dire « Ah bah les hommes, vive les femmes », pas du tout. Chez Picpic, c'est vraiment les femmes comme levier. Pour nous, c'est vraiment un levier pour pouvoir entrer, faire passer nos messages, etc. Les femmes, les jeunes, voilà, on a plusieurs leviers hein, au sein de l'association.
Pour faire vivre tous ces messages.
Oui, mais encore une fois, quand je regarde autour de moi, donc c'est pas une étude très scientifique, mais quand je regarde autour de moi, je vois quand même énormément de femmes engagées. Je vois aussi beaucoup d'hommes engagés, mais j'ai l'impression que voilà, que au niveau du cœur des femmes, il y a cet engagement qui est quand même très très fort pour les autres. Et pour l'environnement. Voilà, cet engagement pour les autres. Alors, je n'ai pas envie de résumer les femmes au care. Quand on dit, voilà, les femmes, c'est le care. Donc, voilà,
plus complexe.
C'est beaucoup plus complexe et je ne suis pas assez pointue là-dessus. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me touche de manière très personnelle parce que j'ai des modèles autour de moi comme ma mère ou comme d'autres femmes. Je suis entourée de femmes fortes, volontaires, qui font bouger les choses et pas dans un but, et dans un but vraiment global pour les autres, pour tous, c'est-à-dire dans un but désintéressé. C'est génial.
Je crois qu'on va en reparler juste après de tout ça. De quoi t'es la plus fière finalement avec Picpic Environnement?
Honnêtement, moi, ce qui me rend le plus fier, c'est d'avoir pu créer de l'emploi. Bien sûr, de défendre des idées, de faire passer des messages, mais dans le monde actuel, avec les difficultés que l'on a, d'avoir pu créer de l'emploi, et surtout pour des jeunes qui avaient un peu de difficultés. Donc ça, j'en suis vraiment très très fière.
Eh bien, tu peux. Caméra, c'est quoi ton premier gros coup de culot avec Picpic?
Alors, memories. Comme je te disais, Solène, l'association, c'est vraiment une association de bénévoles. On faisait des choses ensemble, on se faisait plaisir. On allait avec les mamans et les familles, on faisait des sorties au parc. On allait visiter les ruches. Donc, il y avait des ruches à Essey-Moulineaux avec une apicultrice au parc de l'île Saint-Germain. Voilà, on faisait des choses de manière bénévole. On s'échangeait des recettes, on échafaudait des projets. C'était génial. On était de plus en plus sollicités. Pouvez-vous venir? Pouvez-vous faire ci? Pouvez-vous faire ça? Et on s'est dit, tiens, on va se lancer, puisqu'on nous le demande, on va faire des animations en scolaire. Et là, panique. Donc voilà, avec beaucoup de culot, j'ai dit, mais bien sûr, on peut faire une animation scolaire, on viendra dès lundi.
On était quel jour quand t'as dit ça?
On était vendredi. et là, c'est le gros stress du week-end. Comment on fait une animation scolaire? voilà, le monde du scolaire, on ne connaissait pas du tout. C'était la première fois qu'on nous sollicitait de manière un peu professionnelle. Alors, il n'y a pas de rémunération ni rien, c'était bénévole, mais c'était quand même une... voilà, est-ce que votre association, au-delà de votre entre-soi, de vos trucs que vous faites entre femmes, est-ce que vous pouvez venir nous présenter, pas autour d'une réunion, d'une question de débat, mais vraiment animer une animation scolaire de bout en bout. Alors maintenant que ça fait 12 ans qu'on le fait, on en rigole parce que maintenant on les fait les yeux fermés, mais quand c'est la première fois et qu'on se dit mais pourtant j'ai des enfants, hein, j'ai été à l'école, etc. Mais moi ma formation c'est le commerce international, donc aller parler à des enfants,
leur faire quel passer... âge ?
C'était des primaires.
Des primaires.
Voilà.
Donc, et au final ça s'est passé comment cette animation ?
Ben, beaucoup de stress avant, beaucoup d'adrénaline pendant, et après on s'est dit bon ben finalement ça va, c'était ça. Mais vraiment, enfin je veux dire, peut-être que d'autres personnes qui auraient été un peu moins foudingues auraient pris le temps de préparer, de se former, d'essayer, de faire du compagnonnage, d'aller voir comment ça se faisait ailleurs et pas de dire bah oui, ok, on y va.
Mais finalement, est-ce que c'est pas ça aussi un trait de personnalité d'entrepreneur, que ce soit en association ou en entreprise d'ailleurs, ce côté foudingue.
On y va.
On y va.
Tant pis, allez, on s'en fout, on y va. Bah attention, vous allez vous casser la gueule. C'est pas grave, on y va.
Est-ce que tu te souviens la première fois où tu as entendu l'un de tes garçons expliquer ce qu'était Pic-Pic à un copain ou à quelqu'un d'autre ?
Oui, parce que ça m'a choquée.
Ah ouais ?
Parce que je leur en parle depuis tellement longtemps, vu que depuis qu'ils sont nés, voilà, je mène ce projet. Et j'avais vraiment l'impression de les saouler. Je pense que je les saoule au quotidien. Je leur parle pas de pic-pic, mais je les dis pas pic-pic on fait ci, pic-pic. Mais je leur dis à la maison, fais pas ci, jette pas ça, nanana. Voilà, autant je suis non moralisatrice et gentille à l'extérieur, autant en tant que mère, je pense que je suis assez chiante. Et je pense que ça, moi je voyais, je pensais pas du tout que c'était un sujet qui les intéressait. Mais quand j'ai entendu la première fois mes garçons en parler, je ne sais plus, alors je j'ai plus le contexte en tête. Mais j'étais assez épatée. Je me dis, ah bon, mais il a quand même compris ce que je faisais dans l'association, au-delà de mes injonctions du quotidien, etc. Ah, il a quand même compris. Donc je me dis, les enfants, ils captent tout, quoi. Ils captent des bribes. Et donc voilà. Et puis en plus, il en parlait avec une certaine fierté. Je me suis dit, waouh.
Ça t'a donné envie d'aller encore plus loin, du coup.
Ça m'a donné envie de frimer auprès d'eux. Mais... ah ouais, ça te plaît ce que je fais ? Ok.
Si, est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné et que t'as jamais suivi ?
Ouais, je sais pas s'il faut le dire. On peut pas dire que je sois la personne. Je suis une personne assez ronde, dans tous les sens du terme. Je suis pas une personne très carrée. Et je sais que, normalement, que tu sois commercial, ou que tu fasses n'importe quel projet, il faut se préparer. C'est un peu ce dont je parlais tout à l'heure. Et on m'a toujours dit, dans les projets, dans le montage de Pic-Pic, ou dans le développement de Pic-Pic, il faut faire des études de marché, il faut faire des budgets, gna 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 gna. Oh, ça m'a saoulée. Donc j'y allais un petit peu. Voilà, c'est le genre de document un peu essentiel que j'ai du mal à faire. Et pourtant, je sais que c'est un incontournable du projet. Mais pour moi, le plus important, c'est quand même l'objectif. Hein. C'est quoi l'objectif et les publics. Enfin, voilà. Moi, je préfère rencontrer des gens, parler des projets, réfléchir ensemble, voir ce qui leur plairait. Et après, on peut le traduire. Mais vraiment, à chaque fois que j'ai eu droit à des accompagnements, et on a la chance d'être quand même pas mal accompagné en Ile-de-France, c'était toujours, bon, on va faire un plan comptable. Ouais, mais bon.
C'est nécessaire, mais il faut aussi avoir une connaissance terrain.
Oui, moi j'ai l'impression que ça vient un peu en 52e position. Quoi.
Dans ta tout doux. Le meilleur conseil qu'on t'a donné
Le meilleur conseil, je reviens encore une fois au mot ensemble, la fille un peu monomaniaque, c'est de bien s'entourer. Ouais. C'est-à-dire quand tu es tout seul, tu as toujours l'impression d'avoir les meilleures idées, d'avoir tout compris et tout. C'est mon projet, c'est mon idée, gna gna gna. Et en fait, tu t'entoures de gens qui ne sont peut-être pas d'accord avec toi, mais c'est pas mal qu'il y ait des gens qui ne soient pas d'accord avec toi, qui te challengent. Et qui te remettent en cause. Alors, c'est pas du tout agréable, hein. C'est très désagréable, mais c'est vraiment le meilleur conseil, je trouve. Et au final, les gens qui t'entourent, ils veulent quand même ton bien. Donc, tu le vois pas comme ça tout le temps, mais être entouré de gens qui sont pas obligatoirement d'accord avec toi, voilà, mais qui veulent t'aider à faire avancer ton projet.
Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ?
T'es prête à te relaxer ? Caméra, je te propose du coup maintenant de plus découvrir qui est cette femme qui se cache derrière Pic Pic et toutes ses actions. Si on se plonge dans ton enfance, c'était quoi les premiers signes révélateurs de l'éco-citoyenne que tu es aujourd'hui ?
Alors, rewind, j'ai quand même 48 ans, hein. C'est il y a longtemps, hein. Je suis une vieille maintenant. Bref, la petite enfance n'a pas été simple. Moi, je suis née en Algérie, je suis née en France quand j'avais 2 ans, donc c'était quand même un déracinement, hein. Je suis arrivée en maternelle, je ne parlais pas le français. Donc, je me faisais engueuler, taper, c'était dur vraiment à l'époque, hein. Et en plus, on a quand même vécu dans une certaine pauvreté, bon tout est relatif, hein. Mais voilà, de mes parents, il n'y avait que mon père qui travaillait, ouvrier du bâtiment, et on était 8 enfants.
Grande famille.
2 garçons, 6 filles, voilà, 8 enfants, pour un seul salaire qui n'était pas extraordinaire. Donc ça n'a pas été simple. Et du coup, moi ce que j'ai vu, c'est des parents qui étaient vraiment dans une grande sobriété. Donc toujours dans beaucoup de plaisir, on faisait beaucoup de choses ensemble, voilà. Et on s'éclatait ensemble, surtout entre frangines, je tiens à le dire, hein. Entre filles. Et ce que j'ai vu, c'était une manière d'être qui était justement dans la préservation et dans la sobriété. Mmh. On retrouverait vraiment toute la stratégie de Pic Pic qui était déjà là, hein. La préservation, on vient d'un village en Kabylie où... c'est vraiment hyper, hyper roots, quoi, hyper nature. Tu veux de l'eau, ben, tu prends ta jarre, tu vas à la fontaine, tu vas chercher de l'eau. Tu veux prendre ta douche, ben, tu fais plusieurs allers-retours et tu chauffes l'eau à la marmite. Voilà. Ça, c'était encore comme ça il n'y a pas longtemps. On est entouré de nature. Enfin, voilà, il y avait, jusqu'à récemment, il y avait assez peu de sacs plastiques, il y avait assez peu de choses comme ça. Donc, pour eux, cette idée de préserver la nature, enfin de ne pas polluer, ça semble d'une telle évidence. Et en termes de sobriété, pareil, quand tu as 8 gamins et que tu n'as quasiment pas de sous, ben, tu ne fais pas des folies, quoi. Donc toutes ces notions qui nous semblent maintenant hyper écolo, hyper nanana, mais c'est tellement du bon sens qu'on retrouve dans beaucoup de familles qui jamais ne diront qu'elles sont écolo.
Ouais.
Ma mère, c'est certainement la personne la plus écolo que je connaisse. Tu lui poses la question, elle va dire quoi ? Mais n'importe quoi, je suis pas comme eux là. Gnagnagna. Enfin voilà. Alors que gaspillage alimentaire, ça n'existe pas. Mmh. Réutilisation, réemploi, je peux te dire qu'entre frangins, les vêtements, ça tourne.
Ça
hein.
Tournait. Ça
et t'as de la chance quand t'es dans le premier comme moi, et t'as beaucoup moins de chance quand t'es dans les derniers. Voilà. Donc pareil, la voiture, une voiture pour 10 personnes. Non quoi, c'est plutôt transport en commun, on marche et tout. Donc voilà, c'est pour dire que c'est pour moi les premières graines, elles viennent de.
Elles reviennent à ce retour aux sources aussi et à ton enfance finalement.
J'ai l'impression. Sans vouloir faire de.
Tout à l'heure, tu disais que ta maman c'était une femme de combat, une combattante. Est-ce que chez toi aussi déjà petite, il y avait ce côté je défends certaines causes, ce côté très combative?
Oui, si je pose la question à mes parents, ils vont dire que je devais être hyper chiante. Je crois que j'ai été extrêmement pénible en tant qu'ado. Je crois que je reste encore un petit peu pénible maintenant, mais c'est pas grave. Je pense que le sujet du féminisme, bien sûr, on va pas dire le mot féminisme, hein, mais d'exister en tant que fille, encore une fois, dans une culture un peu traditionnelle, où la richesse, c'est le garçon. Je tiens à le dire, moi, toute mon enfance, c'était la fierté, c'était les garçons, et les filles, c'était un peu... Et je pense que dans les familles... plus traditionnelles, africaines, asiatiques, maghrébines, etc. On le ressent beaucoup, ça. Les filles, c'est un peu un poids. Oh là là, il va falloir les marier, la dot, nanana. Moi, j'ai des cousines qui n'ont pas été plus loin que la primaire parce que après, il fallait faire les transports, payer des affaires et tout. Non, mais c'est bon, t'arrêtes l'école, tu restes à la maison, on va te marier, etc. Donc, en tant que fille, il fallait exister. Et au sein d'une famille nombreuse, il fallait exister. Donc, le combat, il a toujours été là. Et je pense effectivement que pour les parents, c'est pas simple. Voilà, dans les traditions, c'était obligatoirement les tâches ménagères, c'est pour les filles. Dans les études, tu feras plutôt ci que ça. Ton frère, il fera médecin et toi, tu feras... Enfin, voilà. J'ai l'impression que c'est cette idée de faut se battre un peu pour exister, elle vient peut-être aussi un peu de là.
Et tu t'es battue pour choisir les études que tu as finalement faites ?
Le seul objectif de mes parents, c'était vraiment qu'on fasse des études et qu'on s'en sorte, quoi. S'ils ont fait ce déracinement, ils ont tout quitté pour venir en France, c'est vraiment, ils ont tout donné pour nous.
Ouais.
Tu vas me faire pleurer, Solène. C'était, voilà, leur objectif, c'était qu'on réussisse coûte que coûte. Donc, c'était les études.
Et le dévouement finalement de ta maman.
Voilà, mais c'est pour dire que ils n'ont pas parlé religion, ils n'ont pas parlé langue maternelle. Enfin, vraiment, ils ont tout. Voilà, ils sont coupés de tout pour qu'on puisse. Ils ont plutôt bien réussi parce que tous leurs enfants ont fait des grandes études, ont bien réussi, etc. Mais c'est un sacrifice de tout le temps, quoi.
Ouais, sacrifice d'une vie pour ses enfants.
Et nous, on se plaint. C'est extraordinaire. On n'avait pas assez de jouets quand on était petit. On faisait pas assez de vacances.
Qu'est-ce qui a forgé la femme que tu es devenue? Est-ce qu'il y a des rencontres? Est-ce qu'il y a des mantras? Est-ce qu'il y a des livres? Je sais pas. Des choses qui ont fait, qui font que tu es ce que tu es aujourd'hui?
Alors, la chance que j'ai eue, encore une fois, c'est de faire des études de commerce international et de travailler à l'export, d'être responsable d'export. Donc, la chance que j'ai eue, c'est vraiment de voyager et de voir, de sortir de mon cocon et de voir comment ça se passait ailleurs. Et quand on voit comment ça se passe dans les pays d'Europe, donc j'ai été beaucoup avec des maisons mères en Allemagne, en Angleterre, etc. Donc j'ai vu le business, comment il se faisait ailleurs. Quand on voit les familles, le business, comment il se fait en Afrique, les business, comment il se fait en Europe, comparer les familles, voir, j'ai été accueillie dans des familles un peu aux quatre coins du monde. Pour moi, c'était extraordinairement riche, quoi, de voir comment ça se passait. Ça m'a beaucoup inspirée. On sort un peu de notre entre-soi francilien, parisien, où on se plaint. On dit, oh, Paris est sale. Oh, Paris est sale. Mais tu plaisantes ou quoi? Oh, les transports à Paris, c'est pourri. Mais tu rêves. Va voir ailleurs comment c'est. Enfin, voilà. Ça, pour moi, je trouve ça extraordinaire. Et sinon, c'est vraiment des rencontres, encore une fois, de femmes au sein du... quand j'étais en entreprise, et surtout là, depuis 2008, avec toutes ces mamans, on est vraiment une équipe de mamans extraordinaires, Anne, Farida, etc. Enfin, c'est des femmes vraiment fortes qui... Alors, ce ne sont pas des femmes qu'on va voir à la télé, il y a des reportages dessus, enfin, voilà, elles sont fortes dans leur quotidien, elles se sont battues, et voilà.
C'est des rôles modèles du quotidien.
Extrêmement inspirantes, et c'est vraiment le message de Pic-Pic, c'est l'extraordinaire est dans l'ordinaire. Voilà, nous, on n'a pas des stars autour de nous, on a des pépites autour de nous, mais c'est des gens du commun, quoi.
Et on sent que c'est ça aussi qui te motive.
Oui.
tes plus grands moments de folie? Tu les décrirais comment? Ce serait quoi?
Oh là, question dure. On peut pas tout dire en plus.
Mais si, on peut tout dire. Ça reste presque entre nous.
Voilà, des moments de folie. Moi, j'ai des petits moments de folie. Des fois, je pète un câble en dansant et en écoutant de la musique. Voilà. Donc, je sais qu'à chaque fois, chaque 8 mars, on va fêter... au Bizarre, dans Paris, l'anniversaire de Pic-Pic. Et on se déchaîne sur la piste. Voilà, ça, c'est des mini moments de folie dont on a bien besoin. On a
bon, tous un année, peu en communion. Ça sera peut-être pas ouvert.
Mais je sais pas ce qu'on va faire là, cette année. Hein. Après, les moments de folie, c'est de... le premier moment de folie, et là, mon mari me le rappelle de manière assez régulière, c'est d'avoir quitté le monde de l'entreprise où où c'est tout, t'as une carrière de 15 ans, t'as une ligne droite toute tracée, t'es directrice commerciale, directrice export, etc. Et tu plaques tout, tu négocies ton départ, tu divises ton salaire en deux, t'es complètement dans l'incertitude, et tu t'éclates parce que...
Et finalement, est-ce que ça vaut pas le...
Ah ben, moi j'arrête pas de le dire oui, lui il en est pas trop sûr financièrement, mais... Là, je pense que c'était le plus gros coup de folie. Mais bon, je ne le regrette absolument pas.
Il y aurait d'autres projets que tu aurais aimé lancer?
Oh là là, j'en ai plein. Il faut que j'arrête d'ailleurs. Ils n'en peuvent plus de moi dans l'association. Toutes les nuits, je pense à des trucs et le matin, j'arrive. Oh, j'ai une super idée, on pourrait faire ça. Non, caméra, arrête. Non, mais l'un de mes plus grands regrets, c'est on a eu des opportunités pour peut-être faire des choses... des projets type Pic-Pic, mais ailleurs.
Ouais.
Et par exemple en Algérie, où là, le besoin est énorme. Et en 2015, quand c'était la COP21, j'ai eu la chance d'être invitée à Alger, de rencontrer un ministre de l'Environnement, d'être invitée sur des plateaux, etc. Et j'ai senti qu'il y avait beaucoup d'envie, mais j'ai pas réussi à aller au bout. déjà de par mes petites épaules, j'ai pas réussi à aller au bout. Et en plus, j'ai l'impression que le pays était pas mûr, qu'il y avait vraiment beaucoup de soucis. Il y a énormément de projets là-bas, c'est incroyable. Il y a plein de petites assos de terrain qui font plein de choses. Mais il y a énormément de freins pour le développement économique. On va pas rentrer dans la politique, mais c'est un peu compliqué. Et ça, c'est l'un de mes regrets.
Mais t'aimerais bien réessayer ?
Ouais, si quelqu'un m'écoute.
Alors, si tu devais lancer un appel, tu dirais
allez,
quoi ?
Allez, toute la diaspora algérienne, on s'unit et on fait des choses. Enfin, diaspora algérienne, pareil pour tous les pays. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de cultures et de communautés différentes en France et qu'elles sont souvent assez investies ici. Et peut-être qu'elles ont envie de faire des choses aussi chez elles, dans leur pays, si le pays en a besoin, comme l'Algérie en aurait besoin. Donc voilà, ça me plairait beaucoup.
Pierre-Étienne, dans son podcast 40 nuances de Next, il nous a parlé de sa grande passion pour la permaculture. C'est quoi la grande passion de Caméra ?
Moi, j'ai une passion pour les abeilles, parce que je suis aussi apicultrice.
Ouais. Ah, génial !
J'ai des ruches.
Donc, tu produis ton miel ?
Oui, on a à peu près 150-200 kilos de miel par an. Là, j'ai 10 petites ruches à Issy-les-Moulineaux. Vraiment du miel hyper local. Donc, et on ne le vend pas, évidemment, ça c'est pipique, tu vois. On ne vend pas, on le donne. On le donne à nos bénévoles, à nos partenaires. Et bon, là, mon regret, c'est de ne pas pouvoir plus monter en compétence sur l'apiculture. Donc là, je fais appel à une super copine, Marie-Odile Langelle, qui s'en occupe avec brio. Et là, je n'ai pas le temps. Voilà, je n'ai pas le temps de vivre, je n'ai pas le temps de rien. Heureusement qu'elle est là pour s'en occuper. Donc ça, c'est un peu mon regret de ne pas être plus sur l'apiculture. Mais ce côté faire soi-même, mettre les mains dans les ruches, mettre les mains dans la terre, comme Pierre-Étienne, mettre les mains dans la cuisine, mettre les mains dans la couture. Ça, c'est quelque chose que je conseille à tout le monde, le faire soi-même. C'est génial.
C'est ce qui te ressource aussi.
Oui. Après, ce qui est pas mal dans l'apiculture, c'est que tu es tout seul, quoi. Quand tu es toujours ensemble. C'est comme quand tu es dans une famille nombreuse, tu demandes qu'un truc, c'est d'être tout seul, des fois. Donc là, c'est le petit bain de nature. Voilà, dans le calme. Et après, tu retournes dans le temps.
En méditant en même temps.
Je ne vais pas mettre un mot comme la méditation, mais tu laisses juste ton esprit vagabonder.
Ouais.
Il te faut attention de ne pas te faire piquer, bien sûr.
Wow. C'est quoi ta plus grosse claque ?
Oula. Professionnelle, personnelle ?
Comme tu veux.
Professionnelle, ben, c'est quand tu essaies de faire changer les choses en entreprise et qu'on te dit... C'est pas possible, ça coûte trop cher, c'est pas obligatoire, les autres le font pas, pourquoi est-ce qu'on le ferait ? Enfin, voilà, tu dis merde, et t'essayes, ça marche pas. Et ma claque à titre très personnel, c'est, encore une fois, je vais faire attention à ce que je dis, je vais pas braquer des gens, mais je reviens un peu à mon sujet d'intersectionnalité et de place des femmes et des minorités, mais c'est vrai que dans ce domaine que j'adore, de l'environnement, du développement durable et tout. À chaque fois, je me dis, purée, c'est vraiment de l'entre-soi, quoi. Je me dis, où est la diversité ? Où sont les femmes ? Où sont les minorités ? Ça commence un petit peu. Là, il y a des projets dont on parle beaucoup. Des mecs que j'adore, Moussa Camara avec les Déterminés, Abdelali El Badawi pour Banlieue Santé, etc. Donc ça, c'est génial. Bon, ça reste des mecs, mais c'est déjà super. Mais voilà, on les compte sur les doigts d'une demi-main, quoi. Et on trouve énormément de gens engagés, de femmes engagées, de personnes issues des minorités, dans le socio-culturel, dans le médico-social. Voilà, pour cet engagement, tu vois, vers les gens et tout. Mais dès que ça devient ce sujet de l'environnement, du développement durable, de plus, un peu plus... Je vais dire paillettes. Non, c'est mal ce que je viens de dire. Voilà, ben là, tu retrouves toujours un peu le même modèle, un peu hipster. Le jeune mec, à peu près à la trentaine, barbu, il a fait une grande école de commerce où il a fait Sciences Po. C'est mal ce que je dis, je vais le regretter, mais c'est pas grave. Mais voilà, il a eu son déclic, il a travaillé en grande entreprise, il a fait son tour du monde, il a eu son déclic, il a envie de sauver le monde, et là, il va créer une start-up. Voilà, c'est super cliché ce que je viens de dire, mais c'est un peu ce que je vis au quotidien, j'ai l'impression, et je me dis, mais ben voilà quoi, quand on m'invite à des conférences, à des réunions... Tout le monde se ressemble un peu. Je dis, comment tu veux toucher le public si le public ne se reconnaît pas en toi, quoi. Voilà, c'est la mini claque perso et je sens que je vais regretter ce que j'ai dit.
Je te propose de passer aux questions flash. Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui t'agace ?
Il y n'y a pas vraiment de questions qui m'agacent. C'est, après, c'est toujours un peu les mêmes questions. Je les prends pas mal, Solène. Mais pourquoi vous avez fait ce projet? Mais pourquoi? Ou des noms genre, pourquoi le mot de pic-pic? Le nom de pic-pic, ben voilà. Moi, je préfère qu'on discute de l'objectif de l'asso ou de ses publics plutôt que, oh, c'est rigolo le nom de pic-pic, ça vient d'où et tout. Donc, voilà, c'est... Ça m'agace pas, c'est rigolo, mais je préférerais qu'on parle plus du fond.
Projet. La question qu'on ne te pose jamais, et c'est tant mieux.
Mais si je te dis après, tu vas...
Non, enfin, je ne la poserai pas.
Mais si, je peux la poser. Mais la question qu'on ne pose jamais, c'est marrant, on ne me demande jamais si j'en ai marre. Si j'en ai pas ras-le-bol, si je ne suis pas... Parce qu'après, je serais obligée de dire que des fois, j'en ai marre. Et des fois, j'en ai ras-le-bol. Donc, heureusement qu'on ne me la pose pas, finalement. Mais...
Et tu veux y répondre ou pas?
Bon, je peux dire en deux mots, mais est-ce que... Oui, des fois, j'en ai marre. J'en ai marre de me battre, de porter à bout de bras et de se dire qu'il n'y a plus de subventions, il n'y a plus d'aide publique. Enfin, on se fout un peu de notre gueule, quoi. Bon. J'en ai marre de ne pas voir de femmes. J'en ai marre de ne pas voir de minorités. J'en ai marre de voir... Enfin, voilà. Des fois, j'en ai marre. Mais comme je veux rester positive... Hop, je raccroche le sourire et je m'y remets.
Et tu repars au combat.
Et je repars, voilà. Mais voilà, des fois j'en ai marre. Mais toi, c'est un peu comme aller s'occuper des abeilles, aller débrancher un peu ou aller s'exciter sur une piste de danse. Enfin voilà, c'est... Ouh, tu souffles et tu y retournes. Mais des fois, tu... voilà.
Et la question que tu aimerais qu'on te pose et du coup qu'on va te poser.
La question que j'aimerais qu'on me pose et qu'on ne me pose pas souvent, mais après tu vas dire je radote, c'est... comment est-ce qu'on pourrait faire pour que les personnes qui agissent pour le développement durable ressemblent au public exposé aux problématiques du développement durable? C'est-à-dire que tu as des publics qui sont plutôt fragiles et plus exposés aux problématiques de bâtiments pourris, de voitures pourries, de malbouffe, de ci, de ça. Et pourquoi ces personnes-là, on ne les retrouve pas dans les apporteurs de solutions. Les apporteurs de solutions, ou des fois les donneurs de leçons, ce n'est pas tout à fait les publics qu'on retrouve qui sont les plus exposés. Ces publics-là, ils ont des solutions entre eux, ils font des trucs, mais on n'entend pas très souvent parler d'eux. Et on ne pose pas souvent cette question de comment faire. Ou... Voilà, ça me...
Et ce serait quoi ta réponse, du coup?
Oh là là Déjà qu'on s'en rende compte. Parce que c'est comme quand on parle de la place des femmes dans le... Là, maintenant, on sait que les femmes, elles vont avoir moins d'opportunités professionnelles, elles vont gagner 20% de moins. On le sait. Il y a des chiffres, il y a des études. On en parle. Voilà, c'est comme les MeToo et tout. Au début, quand on n'entend pas parler, tu ne sais même pas que le sujet existe. Et puis soudain, ah ouais, d'accord, ok.
C'est le coup de projecteur qui manque,
voilà,
à ces acteurs-là.
Et je pense que... Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le travail là, de Fatima Wasak, qui est pas mal mise en lumière en ce moment. Et voilà, j'aime beaucoup tout ce qu'elle dit. Et c'est vrai que voilà, sur les mamans des quartiers et l'engagement qu'il y a dans les quartiers qui passe des fois un peu inaperçu. Et des fois même qu'on interroge, elle le dit très bien. Elle, quand elle se bat pour justement limiter la viande, qui est un combat écologique... très, très commun, quoi, dont on entend tout le temps parler, et ben, venant de la part d'une maman de quartier, c'est alors c'est pour une raison religieuse, c'est...
On prête tout de suite des intentions.
Ben voilà, c'est assez extraordinaire, moi ça me choque. Hein. Voilà. Donc...
Donc mettre plus la lumière sur aussi ces acteurs du quotidien, ces gens ordinaires, comme tu disais, et aller chercher l'extraordinaire dans l'ordinaire.
Exactement.
On arrive vers la fin de cette émission. Tu avais donc été choisie comme Sista par Pierre-Étienne de Recommerce. Si toi, à ton tour, tu devais choisir une Sista, une femme entrepreneur sur qui tu veux mettre un coup de projecteur, ce fameux coup de lumière dont on vient de parler, tu choisirais qui et pourquoi?
Tricky question. C'est dur. Il y a tellement de femmes extraordinaires. Moi, j'en vois tous les jours hein, des nanas dans l'associatif ou femmes entrepreneurs qui font des choses extraordinaires. Darani de GSM Master, Amina Bourri, Laure Valentin. Voilà, il y a tellement de femmes extraordinaires. Si je devais en choisir une, du coup, je choisirais une femme qui, justement, est plutôt dans l'ombre. C'est-à-dire que les femmes que j'ai citées, elles sont engagées en politique, elles sont femmes entrepreneurs, on les voit peut-être dans les médias, etc. Et encore une fois, si je veux vraiment être alignée, si je veux être congruente, pour moi, s'il y a une femme à mettre en valeur, je citerai une jeune femme qui est à Nanterre, qui s'appelle Sok Ying, et son nom de famille c'est Chan. Voilà, Sok Ying. Et Sok Ying, c'est une femme, moi, que je trouve extraordinaire, parce que elle est toute seule, elle a investi dans plein de projets, dans plein d'associations. On la trouve dans les projets de jardin à la fac de Nanterre. On la retrouve dans les projets avec Solidarité sur des balades urbaines dans Paris. Enfin voilà, elle s'engage en plein de trucs. Elle fait vraiment sur le terrain. Alors, c'est les petits pas de fourmi d'une femme seule. Hein. Enfin, je veux dire, elle va pas. Voilà. Mais elle fait, là, par exemple, pendant la pandémie, elle a cousu des masques, toute seule, chez elle, avec sa petite machine et tout. Beaucoup de gens ont vendu les masques. Elle en a vendu quelques-uns. Il en a surtout fait beaucoup gratuitement. Voilà. Donc, je sais que c'est quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts. Donc, financièrement, c'est compliqué pour elle, mais c'est une jeune femme. Tellement investie. En plus, elle vient d'accoucher là, d'une petite fille. J'ai trop contente pour elle. Félicitations, Sakine. Mais voilà, pour moi, elle représente tout à fait ces femmes extraordinaires qui sont complètement ordinaires et dont on n'entend jamais parler. Et il faudrait qu'on leur mette plus souvent des coups de projecteur dessus quand même. Parce qu'elles font sur le terrain. C'est pas que, elles ne font pas que des conférences, diffuser des idées, blablabla, blablater, etc. Elles agissent et elles font changer les choses. Ça veut dire que si on parle d'essaimage ou de contamination positive, on peut dire ça, Sucking, elle a convaincu des milliers de gens. Et des gens... voilà, de milieux complètement différents, des jeunes, des plus vieux, des riches, des plus pauvres. C'est typiquement la petite abeille, un peu comme l'abeille pic-pic, c'est typiquement la petite abeille qui s'agite dans son champ à elle. Donc son champ à elle, il est plutôt ouest-francilien, là, mais elle est à fond. Et je lui tire mon chapeau, elle est extraordinaire.
Ben merci Caméra pour la mise en lumière de toutes ces femmes ordinaires, extraordinaires, plutôt extraordinaires et ordinaires. Merci pour ta générosité dans cet entretien et longue vie à Pic Pic.
Ah, trop chou, merci beaucoup Solène.
À bientôt.
On y croit.
40 nuances de Next.
The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40, nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche, et je vous propose de découvrir les 6 stars du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jamin.